Chapitre 31. La bataille de Poudlard. Le plafond enchanté de la grande salle était sombre et parsemé d'étoiles. Au-dessous, les quatre longues tables des maisons de Poudlard étaient entourées d'élèves aux cheveux en bataille, certains vêtus de capes de voyage, d'autres de robes de chambre. Par endroits brillaient les silhouettes nacrées des fantômes de l'école. Tous les regards, ceux des vivants et des morts, était fixé sur le professeur McGonagall qui parlait sur l'estrade à l'extrémité de la salle. Derrière elle se tenaient les enseignants qui étaient restés sur place, y compris Firenze, le centaure à la robe claire et cuivrée, et les membres de l'ordre du Phénix venus se battre. « L'évacuation se fera sous le contrôle de M. Ruzard et de Mme Pomfraîche. Vous, les préfets, quand je vous l'indiquerai, vous devrez organiser vos maisons et mener en bon ordre ceux dont vous avez la charge jusqu'au point d'évacuation. » De nombreux élèves paraissaient terrifiés. Mais, lorsque Harry s'avança le long du mur, cherchant des yeux Ron et Hermione à la table des Griffons d'or, Ernie Macmillan se leva à celle des Poufsouffles et s'écria
« Hey, si on veut participer au combat ?»
Il y eut quelques applaudissements.
« Du moment que vous êtes majeur, vous pouvez rester, » répondit le professeur McGonagall.
« Et nos affaires ?»
lança une fille à la table des serres d'aigle.
« Nos valises, nos hiboux !»«
Nous n'avons pas le temps de les prendre, » expliqua le professeur McGonagall.
« L'important, c'est que vous sortiez d'ici en toute sécurité. »«
Oui, le professeur Rogue !» cria une fille à la table des serpentards.
« Et quelqu'un parlait de valises ? Eh bien lui, pour employer une expression familière, il s'est fait la malle !»
répliqua le professeur McGonagall.
Des acclamations explosèrent aux tables des Griffons d'or, des Poufsouffles et des Serres d'aigle.
Harry s'avança dans la grande salle, le long de la table des Griffons d'or, cherchant toujours Ron et Hermione. Des visages se tournaient vers lui et des chuchotements se multipliaient sur son passage.
« Nous avons déjà installé des défenses autour du château, » disait le professeur McGonagall. « Mais elles ne tiendront pas longtemps si nous ne les renforçons pas. Je vais donc vous demander de vous déplacer vite et dans le calme, en obéissant à vos préfets. »
Mais ces derniers mots se perdirent, submergés par une autre voix très différente qui résonna dans toute la grande salle. Elle était aiguë, glacée, tranchante, et on ne savait pas d'où elle venait. Elle semblait émaner des murs eux-mêmes. Peut-être avait-elle sommeillé là pendant des siècles, tel le monstre auquel elle avait autrefois commandé.
« Je sais que vous vous préparez à combattre !»
Des élèves se mirent à hurler. Certains s'agrippaient les uns aux autres, jetant des regards terrifiés pour déceler l'origine de la voix.
« Vos efforts sont dérisoires ! Vous ne pouvez rien contre moi ! Je ne désire pas vous tuer ! J'ai un grand respect pour les professeurs de Poudlard !» « Je ne veux pas répandre le sang des sorciers !»
Un grand silence s'abattit soudain dans la salle. Cette sorte de silence qui pèse sur les tympans et semble trop intense pour être contenu à l'intérieur des murs.
« Livrez-moi, Harry Potter !»
reprit la voix de Voldemort.
« Et il ne sera fait aucun mal à personne !» « Livrez-moi Harry Potter et je quitterai l'école en la laissant intacte. Livrez-moi Harry Potter et vous serez récompensé. Vous avez jusqu'à minuit. »
Le silence les avala à nouveau. Toutes les têtes se tournèrent. Tous les regards semblaient s'être posés sur Harry, l'avoir figé, comme dans un faisceau lumineux constitué de milliers de rayons invisibles. Puis, une silhouette se leva à la table des serpentards et il reconnut Pansy Parkinson qui tendit un bras tremblant et hurla.
« Mais il est là, Potter ! Il est là ! Que quelqu'un l'attrape !»
Avant que Harry ait pu ouvrir la bouche, il y eut un mouvement collectif. Devant lui, les Griffons d'or s'étaient dressés et faisait face non pas à Harry lui-même, mais au Serpentard. Puis les Poufsouffles se mirent debout, à leur tour, Et presque au même moment, les cerfs d'aigle les imitèrent, le dos tourné à Harry, les yeux fixés sur Pansy. Harry, impressionné, bouleversé, vit des baguettes magiques jaillir de partout, sortant de sous les capes ou de l'intérieur des manches.
« Merci, Miss Parkinson !» dit le professeur McGonagall d'un ton cassant. « Vous allez quitter la grande salle la première avec M. Ruzard. Il serait souhaitable que les autres élèves de votre maison partent avec vous. »
Harry entendit le raclement des bancs, puis les bruits de pas des serpentards qui allaient se rassembler de l'autre côté de la salle.
« Les cerfs d'aigle, vous les suivez !»
s'écria le professeur McGonagall. Lentement, les quatre tables se vidèrent. Celle des serpentards était complètement déserte, mais de nombreux cerfs d'aigle, parmi les plus âgés, restèrent assis pendant que leurs condisciples sortaient en rang. Un nombre plus important encore de poufsouffles demeurèrent à leur table, et la moitié des griffons d'or ne bougèrent pas de leur banc, obligeant le professeur McGonagall à descendre de l'estrade pour chasser de la salle les élèves qui n'avaient pas encore atteint leur majorité.
« Il n'en est pas question !» criait « Filez !»« Et vous aussi, Pix !»
Harry se précipita vers les Weasley, tous assis à la table des Griffons d'or.
« Où sont Ron et Hermione ?»«
Tu ne les as pas trouvés ?»
commença M. Weasley, l'air inquiet. Mais il s'interrompit, car Kingsley s'avançait sur l'estrade pour s'adresser à ceux qui étaient restés.
« Nous n'avons plus qu'une demi-heure avant minuit. Nous devons donc agir vite. Les enseignants et les membres de l'Ordre du Phénix se sont mis d'accord sur un plan de bataille. » Les professeurs Flitwick, Shurav et McGonagall emmèneront des troupes de combattants au sommet des trois plus hautes tours. La tour de Cerf d'Aigle, la tour d'Astronomie et celle de Gryffondor. De là, ils pourront voir les environs et seront dans une excellente position pour jeter des sortilèges. Pendant ce temps, Remus,
il désigna Lupin,
Arthur, il pointa le doigt vers M. Weasley assis à la table des Gryffondor, et moi, nous prendrons la tête d'autres groupes dans le parc. Nous aurons besoin de quelqu'un pour organiser la défense des entrées et des passages qui mènent à l'intérieur de l'école.
« Ça, c'est dans nos cordes !» lança Fred en montrant George et lui-même.
Kingsley approuva d'un signe de tête.
« Très bien. Les chefs, venez ici. Nous allons répartir les troupes. »«
Potter !»
dit le professeur McGonagall en se hâtant vers lui pendant que les élèves envahissaient l'estrade, jouant des coudes pour prendre leur place, recevant des instructions.
« N'êtes-vous pas censé chercher quelque chose ?»
Quoi ?
Ah oui, oui, mais bien sûr, dit Harry. Il avait presque oublié l'Horcrux, presque oublié que la bataille allait être livrée pour qu'il puisse le retrouver. L'inexplicable absence de Ron et d'Hermione avait momentanément chassé toute autre pensée de sa tête.
Alors allez-y, Potter, allez-y !
Oui, oui, d'accord.
Il sentit les regards le suivre lorsqu'il ressortit en courant de la grande salle et retourna dans le hall d'entrée, toujours rempli d'élèves qu'on évacuait. Il se laissa emporter avec eux dans l'escalier de marbre, mais parvenu en haut des marches, il s'éloigna en hâte le long d'un couloir désert. La peur, la panique embrumaient son cerveau. Il essaya de se calmer, de se concentrer sur la recherche de l'Horcrux. Mais ses pensées bourdonnaient frénétiquement, stérilement, telles des abeilles enfermées sous un verre. Sans Ron et Hermione pour l'aider, il semblait incapable de rassembler ses idées. Il ralentit, puis s'arrêta au milieu d'un couloir vide où il s'assit sur le piédestal d'une statue partie au combat et sortit la carte du maraudeur de la bourse accrochée à son cou. Il ne voyait nulle part les noms de Ron et d'Hermione, mais la foule des petits points qui se dirigeaient vers la salle sur demande était si dense qu'elle les cachait peut-être. Il rangea la carte, plongea son visage dans ses mains et ferma les yeux, s'efforçant de se concentrer. Voldemort pensait que j'allais me rendre dans la tour de Cerf d'Aigle. C'était un fait solide. Le point de départ, si Voldemort avait posté Alecto Caro dans la salle commune des Cerfs d'Aigle, il n'y avait qu'une seule explication possible. Voldemort craignait que Harry sache déjà que son Horcrux était lié à cette maison. Or, le seul objet qu'on pouvait associer à Cerf d'Aigle était le diadème perdu. Comment l'Horcrux aurait-il pu être ce diadème? Comment Voldemort, le serpentard, aurait-il trouvé un objet qui avait échappé à des générations de cerfs d'aigle? Qui donc lui aurait indiqué où chercher, alors que personne n'avait vu le diadème de mémoire d'homme? De mémoire d'homme? La tête toujours dans ses mains,
Harry rouvrit brusquement les yeux. D'un bond, il se leva du piédestal et rebroussa chemin à toutes jambes, se précipitant vers son unique et dernier espoir. Lorsqu'il revint au sommet de l'escalier de marbre, le tumulte des centaines de personnes qui se dirigeaient vers la salle sur demande était devenu de plus en plus retentissant. Les préfets criaient des instructions, essayant de surveiller les élèves de leur maison. On se poussait, on se bousculait. Harry vit Zacharias Smith écarté brusquement des élèves de première année pour se placer en tête de la file. Parmi les plus jeunes, certains étaient en larmes, tandis que les plus âgés appelaient désespérément des amis, des frères, des sœurs. Harry aperçut une silhouette d'un blanc nacré qui flottait dans les airs en traversant le hall d'entrée et il cria aussi fort qu'il put pour couvrir le vacarme.
« Nick ! Nick ! Il faut que je vous parle !»
Il se fraya un passage à contre-courant dans la marée des élèves et parvint enfin à atteindre le bas de l'escalier où l'attendait Nick, quasi sans tête, fantôme de la tour de Gryffondor.
« Harry, mon cher ami !»
Nick lui saisit les mains et les pressa dans les siennes. Harry eut l'impression de les avoir plongés dans de l'eau glacée. « Nick, il faut que vous m'aidiez. Qui est le fantôme de la tour de Serdaigle ?» Nick, quasi sans tête, parut surpris et légèrement vexé.
« La dame grise, bien sûr. Mais si vous avez besoin des services d'un spectre... »
« Il faut absolument que je la voie. Savez-vous où elle se trouve ?»«
Voyons...
La tête de Nick vacilla légèrement sur sa fraise, lorsqu'il la tourna d'un côté puis de l'autre, regardant par-dessus les élèves qui grouillaient autour d'eux.
« Ah, la voilà, là-bas, Harry, la jeune femme, avec les longs cheveux !»
Harry regarda dans la direction que montrait le doigt transparent de Nick et aperçut un fantôme de haute taille qui croisait son regard, haussa les sourcils et s'en alla en traversant un mur épais. Harry courut après elle. Quand il eut franchi la porte du couloir dans lequel elle avait disparu, il la vit à l'autre extrémité. Elle glissait en douceur et s'éloignant toujours de lui.
« Hé, attendez ! Attendez, revenez !»
Elle consentit à s'arrêter, flottant à quelques centimètres du sol. De loin, Harry pensa qu'elle devait être belle, avec ses longs cheveux tombant jusqu'à la taille et sa cape qui descendait jusqu'au sol. Mais elle paraissait également fière et hautaine. Lorsqu'il la vit de plus près, il se souvint d'être passé plusieurs fois devant elle dans ce couloir, sans jamais lui avoir parlé. « Vous êtes la dame grise ?» Elle acquiesça d'un signe de tête, sans prononcer un mot. « Le fantôme de la tour de Serdaigle. »
« En effet. »
Le ton de sa voix n'était pas très encourageant. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Il faut que je sache tout ce que vous pourrez me dire sur le diadème perdu. » Un froid sourire étira les lèvres du fantôme.
« J'ai bien peur de ne pouvoir vous aider, » répondit-elle en se tournant pour s'en aller.
« Attendez !»
Il n'avait pas eu l'intention de crier, mais la colère et la panique menaçaient de le submerger. Il jeta un coup d'œil à sa montre, le fantôme flottant toujours devant lui, et vit qu'il était minuit moins le quart.
« C'est urgent, » dit-il d'une voix féroce. « Si ce diadème se trouve à Poudlard, il faut que je le trouve, et très vite !»«
Vous n'êtes pas le premier à convoiter le diadème. Loin de là, »
lança-t-elle avec dédain.
« Des générations d'élèves m'ont harcelé. »
« Il ne s'agit pas d'obtenir de meilleures notes, » s'écria Harry. « Il s'agit de Voldemort, de vaincre Voldemort, à moins que cela ne vous intéresse pas. » Elle ne pouvait rougir, mais ses joues transparentes devinrent un peu plus opaques et elle répliqua d'une voix enflammée.
« Bien sûr que je... Comment osez-vous insinuer ?»«
Alors aidez-moi !» Elle perdait contenance.
« Ce n'est pas une question de... »
balbutia-t-elle.
Le diadème de ma mère ?»«
De votre mère. Elle sembla furieuse contre elle-même. »«
Oui, de mon vivant, »
dit-elle avec raideur.
« J'étais Elena Serdaigle. »«
Vous êtes sa fille. Mais alors, vous devez savoir ce qu'il est devenu. »«
S'il est vrai que le diadème
accorde la sagesse, dit-elle, en faisant un effort évident pour se ressaisir.
Je doute qu'il augmente sensiblement vos chances de vaincre le sorcier qui se donne le nom de seigneur.
Je viens de vous dire que je n'ai pas la moindre envie de le porter, répondit Harry d'un ton agressif. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais si vous tenez à Poudlard, si vous voulez voir la fin de Voldemort, il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur ce diadème.
Le fantôme resta immobile, flottant toujours dans les airs, le regard fixé sur Harry, qui se sentait envahi par le désespoir.
Si elle avait su quoi que ce soit, elle en aurait bien évidemment parlé à Flitwick ou à Dumbledore, qui lui avait sûrement posé la même question.
Il hocha la tête et se détourna d'elle, mais au même moment, elle ajouta quelque chose à mi-voix.
« J'ai volé le diadème à ma maman. »«
Vous ? Vous ? Vous avez fait quoi ?»«
J'ai volé le diadème, »
répéta Helena Serdaigle dans un murmure.
« Je voulais devenir plus intelligente, plus importante que ma mère. J'ai pris le diadème et je me suis enfuie avec. »
Il ne savait pas comment il avait réussi à gagner sa confiance et ne le lui demanda pas. Il se contenta d'écouter attentivement, tandis qu'elle poursuivait.
« Ma mère, dit-on, n'a jamais admis que le diadème avait disparu. Elle a prétendu qu'il était toujours en sa possession. Elle a dissimulé sa perte, dissimulé ma terrible trahison, même aux autres fondateurs de Poudlard. Puis elle est tombée malade. Une maladie fatale. En dépit de ma perfidie, elle voulait à tout prix me voir une dernière fois. Elle m'a envoyé un homme qui m'avait longtemps aimé, bien que j'eusse toujours repoussé ses avances. Elle savait qu'il n'aurait de repos tant qu'il ne m'aurait pas retrouvé. »
Harry attendit. Elle respira profondément et rejeta sa tête en arrière.
Il a suivi ma trace dans la forêt où je me cachais. Quand j'ai refusé de revenir avec lui, il est devenu violent. Le baron a toujours eu un tempérament emporté. Furieux de mon refus, jaloux de ma liberté, il m'a poignardé.
Le baron ? Vous voulez dire ?
Le baron sanglant, oui.
Reprit la dame grise. Elle écarta un pan de sa cape pour montrer sur sa poitrine blanche la marque sombre laissée par la blessure.
« Quand il a vu ce qu'il avait fait, il a été écrasé de remords. Il a pris l'arme qui m'avait ôté la vie et s'en est servi pour se tuer lui-même. » Plusieurs siècles plus tard, il continue de porter ses chaînes en signe de pénitence, comme il se doit,
ajouta-t-elle avec amertume. Et le diadème ?
Il est resté là où je l'avais caché, quand j'ai entendu, dans la forêt, le baron s'avancer vers moi à l'aveuglette. Je l'ai dissimulé dans un arbre creux.
« Un arbre creux ?» répéta Harry. « Mais quel arbre ? Où se trouve-t-il »
« Dans une forêt d'Albanie, un lieu solitaire dont je pensais qu'il serait hors de portée de ma mère. »«
L'Albanie ?» murmura Harry. La cohérence venait de naître miraculeusement de la confusion, et il comprenait, à présent, pourquoi elle lui révélait ce qu'elle n'avait pas voulu dire à Dumbledore ou à Flitwick. « Vous avez déjà raconté cette histoire à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? À un autre élève ?» Elle ferma les yeux et acquiesça d'un signe de tête.
« Je n'avais aucune idée. Il me tenait des propos flatteurs. Il semblait comprendre, compatir. »
« Oui, songea Harry. » Tom Jedusor devait certainement comprendre le désir d'Helena Serdaigle de posséder des objets fabuleux sur lesquels elle n'avait guère de droit. Vous n'êtes pas la première personne à qui Jedusor ait réussi à tirer les vers du nez, marmonna Harry. Il pouvait être très charmeur quand il le voulait. Ainsi donc, Voldemort était parvenu à faire avouer à la Dame Grise l'endroit où se trouvait le diadème perdu. Il s'était rendu dans la lointaine forêt et avait retiré le diadème de sa cachette. Peut-être à l'époque même où il avait quitté Poudlard, avant de commencer à travailler pour Barjot et Burke. Et cette forêt solitaire d'Albany n'avait-elle pas semblé le meilleur des refuges lorsque, bien longtemps après, Voldemort avait dû trouver un endroit tranquille où se faire oublier pendant 10 longues années? Mais le diadème, une fois transformé en un précieux horcrux, n'était pas resté dans ce modeste tronc d'arbre. Non, il avait été rapporté secrètement dans son lieu d'origine, et Voldemort l'y avait sans doute caché.
Le soir où il est venu demander un poste de professeur,
dit soudain Harry, achevant le fil de ses pensées.
« Je vous demande pardon. »
Il a dissimulé le diadème dans le château le soir où il a demandé à Dumbledore de lui confier un poste d'enseignant, s'exclama Harry. Dire les choses à haute voix lui permettait de mieux les comprendre. Il a dû cacher le diadème quand il est monté dans le bureau de Dumbledore ou quand il en est descendu. Mais cela valait quand même la peine d'essayer d'obtenir ce travail. Il aurait eu alors une chance de s'emparer également de l'épée de Gryffondor.
Merci, merci. Harry la laissa là, flottant dans les airs, une expression de total ahurissement sur le visage. En tournant l'angle du mur, pour revenir dans le hall d'entrée, il jeta un coup d'œil à sa montre.
Il était 5:00, et bien qu'il sût à présent ce qu'était le dernier horcrux, il n'avait toujours aucune idée de l'endroit où il se trouvait.
Des générations d'élèves avaient échoué dans leur quête du diadème, ce qui laissait supposer qu'il n'était pas dans la tour de Serdaigle. Mais alors, où était-il? Quelle cachette Tom Jedusor avait-il bien pu découvrir dans le château de Poudlard en pensant qu'elle resterait à jamais secrète? S'efforçant désespérément d'échafauder des hypothèses, Harry tourna à nouveau un coin de mur, mais à peine avait-il fait quelques pas dans cet autre couloir que la fenêtre située à sa gauche se fracassa dans un vacarme assourdissant de verre brisé. Il fit un bond de côté à l'instant où un corps gigantesque traversait la fenêtre et heurtait de plein fouet le mur opposé. Une créature d'une taille impressionnante, couverte de fourrure, se détacha en gémissant du nouveau venu et se jeta sur Harry.
« Hagrid !» s'écria Harry, qui essayait de repousser les démonstrations d'affection de Croque-Dur, le molosse, tandis que l'énorme silhouette barbue se relevait tant bien que mal.
« Mais qu'est-ce que... » Oh, Harry, Harry, oh, tu es là, tu es là !»
Hagrid se pencha, gratifia Harry d'une rapide étreinte, à lui rompre les côtes, puis retourna précipitamment devant la fenêtre défoncée.
« Très bien, gros pis !»
hurla-t-il à travers les carreaux brisés.
« Je reviens tout à l'heure, tu es un brave garçon !»
Derrière Hagrid, dans la nuit sombre, Harry vit au loin des explosions de lumière et entendit un cri étrange, funèbre. Il regarda sa montre. 1:00. La bataille avait commencé.
« Nom de nom, Harry !»
s'exclama Hagrid d'une voix haletante.
« Ça y est, hein, c'est le moment de se battre !»«
Hagrid, d'où venez-vous »«
J'ai entendu, tu sais qui, jusque dans notre caverne !»
répondit-il d'un air grave.
« Il a une voix qui porte. Vous avez jusqu'à 1:00 pour me livrer, Potter. J'ai tout de suite su que tu devais être là. J'ai su ce qui devait se passer. Descends, Croque-Dur, allons. Hein. Alors, on est venu participer, moi, Groppy et Croque-Dur. On a forcé le passage dans l'école en prenant par la forêt. Groppy nous portait, Croque-Dur et moi. Je lui ai dit de me déposer au château et il m'a poussé par la fenêtre. Le cher ange. Ce n'était pas exactement ce que j'avais prévu, mais bon, mais où sont Ron et Hermione ?
Ça, répondit Harry, c'est vraiment une bonne question. Venez. Ils se hâtèrent tous deux le long du couloir, Croque-Dur bondissant à leur côté. Harry entendait des bruits résonner alentour, des pas qui couraient, des cris. Par les fenêtres, il voyait d'autres éclairs de lumière dans le parc obscur.
« Où est-ce qu'on va ?»
souffla Hagrid, suivant Harry d'une démarche pesante qui faisait trembler le parquet. « Je ne sais pas exactement, » répondit Harry en tournant au hasard dans un nouveau couloir, « mais Ron et Hermione doivent être quelque part par là. » Les premières victimes de la bataille étaient déjà à terre. Un peu plus loin, les deux gargouilles de pierre gardant habituellement la salle des professeurs avaient été fracassées par un maléfice qui avait traversé une autre fenêtre défoncée. Leurs restes remuaient faiblement sur le sol, et lorsque Harry sauta par-dessus l'une des têtes sans corps, elle murmura dans un gémissement
« Oh, ne vous en faites pas pour moi, je vais rester là, tant pis, je continuerai à tomber en morceaux. »
Son visage de pierre repoussant rappela soudain à Harry le buste de marbre de Rowena Serdaigle qu'il avait vu chez Xenophilius, avec cette coiffe d'aimante sur sa tête. Puis il repensa à la statue de la tour de Serdaigle et au diadème sculpté sur ses boucles blanches. Lorsqu'il atteignit le bout du couloir, le souvenir d'une troisième effigie de pierre lui revint à l'esprit, celle d'un vieux sorcier sur la tête duquel il avait lui-même posé une perruque et un vieux diadème bosselé. À cette pensée, il éprouva un choc, comme la sensation brûlante d'une gorgée de whisky pur feu, et il faillit trébucher. Il savait enfin où l'attendait l'Horcrux. Tom Jedusor, qui ne se fiait à personne et opérait toujours en solitaire, avait sans doute eu l'outrecuidance d'imaginer que lui seul était capable de pénétrer les secrets les plus profonds de Poudlard. Bien entendu, Dumbledore et Flitwick, ses élèves modèles, n'avaient jamais mis les pieds dans cet endroit particulier, mais lui, Harry, était sorti des sentiers battus au cours de ses années d'école. Il existait enfin un secret que lui et Voldemort partageaient, mais que Dumbledore n'avait jamais découvert. Il fut arraché à ses pensées par le professeur Chourave, qui se ruait dans le couloir suivi de Neville et d'une demi-douzaine d'autres. Tous étaient équipés de cache-oreilles et portaient de grosses plantes en pot. « Des mandragores !» hurla Neville à Harry en le regardant par-dessus son épaule tandis qu'il s'éloignait au pas de course. « On va leur jeter ça par-dessus les murs! Ah, ils vont pas être très contents !» Harry savait où aller à présent. Il se précipita, Hagrid et Croque-Dur galopant derrière lui. Ils passèrent devant des successions de portraits dont les silhouettes peintes couraient avec eux, des sorciers et des sorcières, portant fraises et hauts de chausses, armures et capes, s'entassant dans les toiles voisines, hurlant des nouvelles en provenance d'autres parties du château. Lorsqu'ils atteignirent l'extrémité du couloir, toute l'école se mit à trembler, et Harry, voyant un vase gigantesque projeté à bas de son socle avec une force explosive, comprit qu'ils étaient soumis à des enchantements plus redoutables que ceux jetés par les professeurs ou les membres de l'ordre.
« Ne t'inquiète pas, Croque-Dur, ne t'inquiète pas !»
hurla Hagrid. Mais le molosse avait pris la fuite sous les débris de porcelaine qui volaient en tous sens, comme des éclats d'obus, et Hagrid se lança à la poursuite du chien terrifié, laissant Harry seul. Celui-ci fonça dans les couloirs aux murs ébranlés, sa baguette brandie. Le long d'un corridor, le portrait du petit chevalier du Catogan se roua de tableau en tableau et lui cria des encouragements, son poney grassouillet trottant derrière lui.
« Maroufle et pandard, Marose et coupe-jarret, boutez-les hors d'ici, Harry Potter, faites-leur mordre la poussière !»
Harry surgit derrière un angle de mur et tomba sur Fred, accompagné d'un petit groupe d'élèves, parmi lesquels Lee Jordan et Anna Abbott. Il s'était posté à côté d'un autre piédestal vide dont la statue, partie au combat, protégeait ordinairement l'entrée d'un passage caché. Ils avaient sorti leurs baguettes et écoutaient, l'oreille tendue vers l'ouverture secrète.
« Belle soirée pour se battre !»
s'exclama Fred, alors que le château tremblait de toutes parts. Harry fila devant eux sans s'arrêter, à la fois exultant et terrifié. Il s'engouffra dans un autre couloir et vit des hiboux voler de tous côtés, poursuivis par Mistaigne qui crachait en essayant de les attraper à coups de patte, dans le seul but, sans nul doute, de les ramener à leur place.
« Potter !»
Devant lui, Abelfort Dumbledore barrait le couloir, sa baguette levée.
« Potter ! Des centaines d'élèves se sont rués dans mon pub !»«
Je sais. Nous évacuons l'école, » répondit Harry. « Voldemort a
attaqué, parce qu'ils ont refusé de te livrer, je sais. »
acheva Abelfort.
« Je ne suis pas sourd, on l'a entendu dans tout Préaulard. Mais il n'est venu à l'idée d'aucun d'entre vous de garder quelques serpentards en otage Parmi les élèves que vous avez mis à l'abri, il y a des enfants de Mangemort. N'aurait-il pas été un peu plus intelligent de les enfermer ici ?
Ça ne suffirait pas à arrêter Voldemort, répliqua Harry. Et votre frère n'aurait jamais agi de cette manière. À Belfort poussa un grognement avant de s'éloigner à grands pas dans la direction opposée.
Votre frère n'aurait jamais agi de cette manière. C'était la vérité, songea Harry, en recommençant à courir.
Dumbledore, qui avait si longtemps défendu Rogue, n'aurait jamais pris des élèves en otage. Ses semelles dérapant sur le sol, il tourna un dernier angle de mur, puis, avec un cri de soulagement mêlé de colère, il les vit enfin. Ron et Hermione avaient les bras chargés de gros objets recourbés, sales et jaunâtres. Ron portait également un balai sous son bras.
« Mais où diable étiez-vous passé ?» demanda Harry.
« Dans la chambre des secrets, » répondit Ron.
« La chambre quoi ?»
s'écria Harry en s'arrêtant devant eux d'un pas vacillant.
« C'est Ron qui a eu l'idée, lui tout seul, »
assura Hermione, le souffle court.
« Absolument génial, non ? Nous étions restés là, après ton départ, et j'ai dit à Ron, « Même si nous trouvons l'autre Horcrux, comment allons-nous faire pour nous en débarrasser ?» On n'avait toujours pas réussi à détruire la coupe, alors il a pensé à ça, le basilic.
Et qu'est-ce que...
Le moyen d'anéantir les Horcrux, dit simplement Ron.
Harry baissa les yeux vers les objets que Ron et Hermione tenaient dans leurs bras, de grands crochets recourbés, arrachés au squelette d'un basilic mort.
Mais comment y êtes-vous entré ?
S'étonna-t-il, regardant successivement les crochets, puis Ron.
« Il faut parler le fourche-langue. »« Il l'a parlé, »
murmura Hermione.
« Montre-lui, Ron. »
Ron produisit un horrible sifflement étranglé.
« Tu avais fait la même chose pour ouvrir le médaillon, » dit-il à Harry sur un ton d'excuse.
« J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, mais... » Il haussa les épaules d'un air modeste. « On a fini par y arriver. »«
Il a été fabuleux, » dit Hermione. « Fabuleux !»
« Alors ?» balbutia Harry, qui s'efforçait de suivre le fil des événements.
« Alors ?»«
Alors ?»« nous avons un Horcrux de moins, » acheva Ron.
Il sortit de son blouson les restes tordus de la coupe de Poufsouffle.
« C'est Hermione qui l'a transpercée. »
Et j'ai pensé qu'elle devait le faire. Elle n'avait pas encore eu de plaisir.
« Un génie !» s'écria Harry.
« Oh, c'était pas grand-chose, » affirma Ron, qui paraissait toutefois très content de lui.
« Et toi, quelle nouvelle ?»
Pendant qu'il leur racontait ce qui s'était passé, une explosion retentit au-dessus de leur tête. Tous trois levèrent les yeux vers la poussière qui tombait du plafond et ils entendirent un hurlement lointain.
« Je sais à quoi ressemble le diadème et je sais où il est, » dit précipitamment Harry.
« Il l'a caché à l'endroit où j'ai rangé mon vieux livre de potions, là où tout le monde a entreposé des tas de choses au cours des siècles. Il pensait avoir été le seul à le découvrir. Venez !» Alors que les murs recommençaient à trembler, il emmena les deux autres jusqu'à l'entrée secrète et descendit avec eux l'escalier qui menait à la salle sur demande. Il n'y avait plus que trois personnes présentes. Ginny, Tonk et une sorcière âgée, coiffée d'un chapeau mangé au mythe que Harry reconnut aussitôt comme étant la grand-mère de Neville.
« Ah, Potter !» lança-t-elle d'un ton cassant, comme s'il l'avait fait attendre. « Peut-être allez-vous pouvoir nous dire ce qui se passe ?»
« Tout le monde va bien ?»
demandèrent Ginny et Tonk d'une même voix.
« Et d'après ce qu'on sait, oui, » répondit Harry. « Y a-t-il encore des gens dans le passage de la tête de sanglier ?»
Il savait que la salle sur demande ne pourrait se transformer tant qu'elle était utilisée par d'autres personnes.
« J'ai été la dernière à l'emprunter !»
déclara Mrs. Lauduba.
« J'en ai condamné l'entrée. Je ne pense pas qu'il soit prudent de la laisser ouverte maintenant qu'à Belfort a quitté son pub. Avez-vous vu mon petit-fils ?»«
Il est en train de se battre, » dit Harry.
« Naturellement !»
répliqua fièrement la vieille dame.
Bah, « Excusez-moi, mais il faut que j'aille l'aider !»
Avec une rapidité surprenante, elle trottina vers les marches de pierre. Harry regarda Tonk.
« Je croyais que vous étiez chez votre mère avec Teddy. »« Je ne supportais plus de ne pas savoir ce qui se passe. »
Tonk paraissait angoissé.
« Ma mère s'occupera de lui. Tu as vu Rémus ?»
Il devait sortir dans le parc à la tête d'un groupe de combattants. Sans ajouter un mot, Tonk se précipita hors de la salle.
Ginny, dit Harry. Je suis désolé, mais toi aussi. Il faut que tu t'en ailles. Juste un instant. Ensuite, tu pourras revenir.
Ginny parut enchantée de quitter son sanctuaire. « Ensuite, tu pourras revenir, » répéta-t-il, tandis qu'elle montait les marches en courant derrière Tonk. « Il faut que tu reviennes !»«
Attends un peu !» s'exclama brusquement Ron. « On a oublié quelqu'un. »«
Qui ?» s'étonna Hermione.
« Les elfes de maison. Ils doivent tous être dans les cuisines, non ?»«
Tu veux dire que nous devrions les envoyer au combat ?» demanda Harry.
« Non !» répondit Ron avec gravité. « Ça veut dire que nous devrions les évacuer, eux aussi. Nous ne voulons pas de nouveaux Dobby, n'est-ce pas? Nous ne pouvons leur donner l'ordre de mourir pour nous. »
Il y eut un grand fracas lorsque les crochets de basilic tombèrent en cascade des bras d'Hermione.
Se ruant sur Ron, elle lui passa les bras autour du cou et l'embrassa en plein sur la bouche.
À son tour, Ron lâcha les crochets et le balai qu'il tenait entre les mains et lui rendit son baiser avec tant de fougue qu'il la souleva de terre.
« C'est vraiment le moment ?» interrogea Harry d'une voix timide.
Voyant que sa question n'avait d'autre effet que de resserrer l'étreinte de Ron et d'Hermione qui se balançaient sur place en s'embrassant, il haussa le ton.
« Hé, il y a une guerre en cours !»
Ils s'écartèrent un peu l'un de l'autre, tout en restant enlacés.
« Je sais, mon vieux, »
répliqua Ron, qui avait l'air d'avoir reçu un cognard sur l'occiput.
« Mais justement, c'est maintenant ou jamais, tu ne crois pas ?»«
La question n'est pas là !» « Qu'est-ce qu'on fait avec leur crux ?» s'écria Harry.
« Si vous pouviez vous retenir juste un peu, le temps qu'on retrouve le diadème. »«
Ah oui, d'accord. Oh non, désolé, » répondit Ron.
Hermione et lui ramassèrent les crochets. Ils avaient tous deux le teint d'un rose soutenu. Lorsqu'ils retournèrent dans le couloir, en haut des marches, la situation s'était gravement détériorée dans le château au cours des quelques minutes qu'ils avaient passées dans la salle sur demande. Les murs et le plafond tremblaient plus fort que jamais. De la poussière s'était répandue dans l'atmosphère et par une fenêtre. Harry vit des éclairs de lumière verte et rouge si proches que les mange-morts n'allaient sans doute pas tarder à pénétrer à l'intérieur de l'école. Il aperçut également Grope, le géant, qui errait au dehors, brandissant une gargouille de pierre arrachée au toit et poussant des rugissements mécontents. « Espérons qu'il va en piétiner quelques-uns, » dit Ron, alors que d'autres cris s'élevaient à proximité.
« À condition qu'il ne piétine personne dans notre camp, » répliqua une voix.
Harry se retourna et vit Ginny et Tonk, leurs baguettes à la main, devant la fenêtre voisine dont plusieurs carreaux avaient été pulvérisés. Au moment où il la regardait, Ginny lança un maléfice qui atteignit de plein fouet un groupe de combattants au-dessous d'eux.
« Bravo, fillette !»
gronda une silhouette qui courait dans leur direction à travers un nuage de poussière. Harry reconnut Abel Forte à la tête d'un groupe d'élèves, ses cheveux gris voltants. Derrière lui.
Ils vont peut-être réussir à ouvrir une brèche dans le rempart nord. Ils ont amené leur propre géant.
Vous avez vu Rémus ? Lui cria Tonk.
Il se battait avec de l'off, lui lança Abel Forte. Pas revu depuis.
Tonk ? Dit Ginny. Tonk, je suis sûr que tout va bien pour lui.
Mais Tonk s'était précipité dans la poussière sur les talons d'Abel Forte. Ginny, impuissante, se tourna vers Harry, Ron et Hermione.
« Ils s'en sortiront à merveille !» assura Harry,
tout en sachant qu'il prononçait des paroles creuses. « Ginny, nous allons revenir dans un petit moment. Pour l'instant, reste à l'écart. Mets-toi à l'abri !»«
Venez, » ajouta-t-il à l'adresse de Ron et d'Hermione.
Ils retournèrent en courant vers le pan de mur, derrière lequel la salle sur demande attendait les exigences de son prochain visiteur. « J'ai besoin de l'endroit où tout est caché !» supplia Harry dans sa tête. La porte se matérialisa à leur troisième passage. Dès qu'ils l'eurent franchi et refermé derrière eux, le tumulte de la bataille s'évanouit. Tout devint silencieux. Ils étaient dans un espace de la taille d'une cathédrale qui avait l'apparence d'une ville. Ses murs imposants, constitués d'objets cachés là par des milliers d'élèves depuis longtemps disparus.
Et il s'est imaginé que personne ne viendrait à Meichi,
dit Ron. L'écho de sa voix résonnait dans le silence.
« Il pensait être le seul, » répondit Harry. « Dommage pour lui que j'ai eu besoin de cacher quelque chose de cette manière, » ajouta-t-il.
« Je crois que c'est là-bas. »
Il passa devant le troll empaillé et l'armoire à disparaître que Drago Malfoy avait réparée l'année précédente avec des conséquences désastreuses. Puis il hésita, scrutant les allées qui s'enfonçaient dans le bric-à-brac. Il ne se rappelait plus où il devait aller.
« Accio diadem ?»
s'écria Hermione dans une tentative désespérée. Mais rien ne vola vers eux. Tout comme la chambre forte de Gringotts, la salle ne semblait pas disposée à livrer si facilement ses objets cachés.
« Séparons-nous, » dit Harry. « Cherchez le buste en pierre d'un vieil homme avec une perruque et une tiare. Il est posé sur un placard et je suis sûr qu'il n'est pas loin d'ici. »
Les deux autres s'éloignèrent en courant dans les allées adjacentes. Harry entendait l'écho de leurs pas à travers les hautes piles de vieilleries, de bouteilles, de chapeaux, de caisses, de chaises, de livres, d'armes, de balais, de battes.
« Pas loin d'ici, » marmonna Harry, « pas loin, pas loin. »
Il s'avança de plus en plus profondément dans le labyrinthe à la recherche d'objets qu'il reconnaissait pour les avoir vus lors de sa première visite. Le bruit de sa respiration résonnait à ses oreilles, et soudain, il fut parcouru d'un frémissement qui sembla se répandre jusqu'à son âme même.
Il était là, devant lui,
le placard couvert de cloques où il avait caché son vieux livre de potions et sur lequel était posé le sorcier de pierre ébréché dont la tête portait une perruque poussiéreuse et une ancienne tiare aux couleurs délavées. Bien qu'il fût encore à 3 mètres du placard, il avait déjà tendu la main lorsqu'une voix lança derrière lui.
« Pas si vite, Potter !»
Il s'arrêta net, ses chaussures dérapant sur le sol, et se retourna. Crabbe et Goyle se tenaient derrière son dos, côte à côte, leurs baguettes pointées droit sur lui. Dans l'espace étroit qui séparait leurs visages ricanants, il aperçut Drago Malfoy.
« C'est ma baguette que t'as là, Potter !»
dit Malfoy, qui glissa la sienne entre Crabbe et Goyle. « Ce n'est plus la tienne !» répliqua Harry, le souffle court, en resserrant les doigts sur la baguette d'Aubépine. « Le vainqueur devient possesseur, Malfoy. Qui t'en a prêté une ?»«
Ma mère !» répondit Drago.
Harry éclata de rire, bien que la situation n'eût rien de très comique. Il n'entendait plus Ron ni Hermione. Ils avaient dû s'éloigner pour chercher le diadème. « Comment se fait-il que vous ne soyez pas avec Voldemort, tous les trois ?» s'étonna Harry.
« On aura notre récompense !»
dit Crabbe. Il avait une voix étonnamment douce pour quelqu'un d'aussi énorme. Harry ne l'avait guère entendu parler jusqu'à présent. Crabbe souriait comme un enfant à qui on a promis un gros paquet de bonbons.
« Nous sommes restés en arrière, Potter. Nous avons décidé de ne pas y aller. On voulait te livrer à lui. »
« Bon plan !» répondit Harry sur un ton de feinte admiration. Il n'arrivait pas à croire que si près du but, Malfoy, Crabbe et Goyle puissent l'empêcher de réussir. Il se mit à reculer très lentement vers l'endroit où l'horcrux était posé de travers sur le buste du sorcier. Si seulement il parvenait à mettre la main dessus avant que le combat ne s'engage. « Et comment avez-vous fait pour entrer ici ? » interrogea-t-il, essayant de distraire leur attention.
« J'ai pratiquement vécu dans la salle des objets cachés tout au long de l'année dernière, »
répliqua Malfoy, la voix crispée.
« Je sais comment y pénétrer. »
« On s'est caché dans le couloir, dehors, » grogna Goyle.
« Maintenant, on sait faire des sortilèges de désolat, d'illusion.
Et là-dessus, son visage se fendit en un sourire niais.
« T'es arrivé juste devant nous et t'as dit que tu cherchais un dieu d'âme. C'est quoi ça? C'est quoi que c'est, ça, un dieu d'âme ?»«
Harry !»
dit soudain la voix de Ron, de l'autre côté du mur d'objets qui se dressait sur sa droite.
« Tu parles à quelqu'un ?»
Dans un mouvement brusque, semblable à un coup de fouet, Crabbe pointa sa baguette sur les vieux meubles, les malles défoncées, les livres usagés, les robes mitées et autres bric-à-brac non identifiés qui s'entassaient en une montagne d'une quinzaine de mètres de hauteur.
« Descendo !»
hurla-t-il. Le mur commença à vaciller, puis à s'ébouler dans l'allée voisine où se trouvait Ron.
« Ron !»
beugla Harry. Quelque part, hors de son champ de vision, Hermione poussa un cri et il entendit d'innombrables objets s'écraser par terre de l'autre côté du mur chancelant.
« Finité !» s'exclama-t-il, sa baguette tendue vers le rempart qui se stabilisa aussitôt.
« Non !»
vociféra Malfoy en immobilisant le bras de Crabbe au moment où celui-ci s'apprêtait à renouveler son sortilège.
« Si tout s'écroule, le diadème va être enterré sous les décombres !»« Mais qu'est-ce que ça peut faire ?»
répliqua Crabbe en dégageant son bras.
«
C'est Potter que veut le Seigneur des Ténèbres, qui va s'intéresser à un dieu d'âme.
Potter est venu ici pour le prendre, dit Malfoy, sans parvenir à dissimuler l'agacement que lui inspirait la bêtise de ses deux acolytes.
Ce qui doit signifier...
Doit signifier...
Crabbe se tourna vers Malfoy avec une férocité qu'il ne cherchait pas à déguiser.
« On s'en fiche de ce que tu penses. Je n'obéis plus à tes ordres, Drago. Toi et ton père, vous êtes finis !»«
Harry !» s'écria à nouveau Ron de l'autre côté du mur de vieillerie. « Mais qu'est-ce qui se passe ?»«
Harry !»
imita Crabbe.
« Qu'est-ce qui se... Non ! Potter ! Andaloris !»
Harry s'était rué sur la tiare. Le sortilège de Crabbe le manqua, mais frappa le buste qui fut projeté en l'air. Le diadème s'envola, puis retomba hors de vue, parmi la masse d'objets sur laquelle le buste avait lui-même atterri.
« Stomp !»
hurla Malfoy à Crabbe, sa voix résonnant en écho dans l'immense salle.
« Le Seigneur des Ténèbres le veut vivant ! Et alors ? Je l'ai pas tué, non ?»
s'écria Crabbe, en rejetant le bras de Malfoy qui essayait à nouveau de le retenir.
« Mais si je le peux ! Je le ferai ! Le Seigneur des Ténèbres veut qu'il meure de toute façon ! Quel diff... »
Un jet de lumière écarlate passa alors à quelques centimètres de Harry. Hermione s'était précipitée derrière lui et avait lancé un sortilège de stupéfaction en visant la tête de Crabbe. Mais Malfoy avait réussi à pousser celui-ci hors de la trajectoire de l'éclair qui rata sa cible.
« C'est cette sande bourbe ! Avada Kedavra !»
Harry vit Hermione plonger de côté et la tentative de meurtre de Crabbe le mit dans une fureur telle que tout le reste s'effaça de son esprit. Il jeta à son tour un sortilège de stupéfaction à Crabbe. Ce dernier l'évita d'un bond, bousculant Malfoy, qui sous le choc lâcha sa baguette. Elle roula à terre, sous une montagne de caisses et de meubles brisés.
« Ne le tuez pas ! Ne le tuez pas !»
cria Malfoy à Crabbe et Goyle, qui visaient tous les deux Harry. Ils hésitèrent une fraction de seconde qui suffit à Harry. «
Expelliarmus !»
La baguette de Goyle lui échappa des mains et disparut dans la muraille d'objets à côté de lui. Il sauta bêtement sur place pour essayer en vain de la récupérer. Malfoy se rua hors de portée du deuxième sortilège de stupéfaction que lança Hermione. Et Ron, apparaissant soudain au bout de l'allée, jeta à Crabbe un maléfice de saucisson qui le manqua de peu. Crabbe fit volte-face et hurla à nouveau
« Avada Kedavra !»
D'un bond, Ron échappa au jet de lumière verte. Malfoy, privé de baguette, se réfugia derrière une armoire à trois pieds, tandis qu'Hermione fonçait sur eux, lançant au passage un sortilège de stupéfaction qui frappa Goyle de plein fouet. « Il est quelque part par là !» lui cria Harry, en montrant la pile d'objets sur laquelle le vieux diadème était tombé.
« Cherche-le pendant que je vais aider... »« Harry !»
hurla-t-elle derrière lui. Un grondement qui enflait rapidement l'avertit de justesse. Il pivota sur ses talons et vit Ron et Crabbe courir vers eux à toutes jambes le long de l'allée.
« Tu aimes la chaleur, crapule ?»
rugit Crabbe sans cesser de courir, mais il semblait incapable de maîtriser ce qu'il avait déclenché. Des flammes d'une taille anormale les poursuivaient et léchaient au passage les amas d'objets qui s'effritaient en se couvrant de suie à leur contact.
« Aguamenti !»
hurla Harry, mais le jet d'eau qui jaillit de sa baguette s'évapora dans l'air.
Cours !
Malfoy attrapa Goyle, rendu inerte par la stupéfaction, et le traîna avec lui. Crabbe les devançait tous, l'air terrifié à présent. Harry, Ron et Hermione s'étaient précipités sur ses talons, poursuivis par le feu. Ce n'était pas un feu normal. Crabbe avait lancé un sortilège que Harry ne connaissait pas. Lorsqu'ils tournèrent à un coin de l'allée, les flammes les pourchassèrent comme si elles étaient vivantes, dotées de sens, décidées à les tuer. Le feu, maintenant, se métamorphosait, se transformant en une gigantesque horde de bêtes féroces. Serpents enflammés, chimères et dragons se dressaient dans les airs, fondaient en piqué, puis s'élevaient à nouveau. Les détritus séculaires dont ils se nourrissaient étaient catapultés dans leur gueule hérissée de dents, projetés très haut sur leurs pattes griffues avant d'être consumés par la fournaise. Malfoy, Crabbe et Goyle étaient hors de vue. Harry, Ron et Hermione s'immobilisèrent. Les monstres enflammés les avaient encerclés. Se rapprochant de plus en plus, ils donnaient des coups de griffes, de cornes, de queues, et la chaleur se solidifiait comme un mur autour d'eux.
« Qu'est-ce qu'on peut faire ?»
hurla Hermione, sa voix couvrant à peine le rugissement assourdissant du feu.
« Qu'est-ce qu'on peut faire ?»«
Là !» Harry saisit sur la pile d'objets la plus proche une paire de gros balais. Il en jeta un à Ron, qui fit monter Hermione derrière lui. Harry enjamba le sien, et, tapant par terre à grands coups de pied, ils s'élevèrent dans les airs, frôlant la gueule cornue d'un rapace embrasé qui essaya de les attraper avec de grands claquements de bec. La fumée et la chaleur commençaient à les submerger. Au-dessous d'eux, le feu maléfique consumait les objets cachés de générations d'élèves pourchassés. Les résultats inavouables de milliers d'expérimentations interdites, le secret des âmes innombrables qui avaient cherché refuge dans cette salle. Harry ne voyait plus trace de Malfoy, de Crabbe ou de Goyle. Il se risqua à descendre aussi bas que possible, au-dessus des monstres de feu en maraude, pour essayer de les retrouver. Mais il n'y avait partout que des flammes. Quelle horrible façon de mourir! Jamais il n'avait voulu une chose pareille.
« Harry, sortons d'ici! Sortons !» cria Ron,
bien qu'il fût impossible de voir où était la porte à travers la fumée. Harry entendit alors un petit cri humain, faible, pitoyable, au milieu du terrible vacarme que produisait le tonnerre des flammes dévorantes.
« C'est trop dangereux !» hurla Ron.
Mais Harry fit demi-tour sur son balai, ses lunettes lui offrant une légère protection contre la fumée. Il scruta la tempête de feu à la recherche d'un signe de vie, d'un visage, d'un bras, d'une jambe qui ne soit pas encore réduit à l'état de cendre. Il les aperçut enfin. Tous deux étaient perchés sur une pile fragile de bureaux carbonisés. Malfoy, entouré de ses bras, Goyle inconscient. Harry plongea. Malfoy le vit arriver et leva une main, mais lorsque Harry la saisit, il sut tout de suite qu'il ne parviendrait pas à le soulever. Goyle était trop lourd, et la main de Malfoy, couverte de sueur, glissa aussitôt de celle de Harry.
« Si on meurt à cause d'eux, je te tuerai, Harry !»
rugit la voix de Ron. Et au moment où une immense chimère de flammes fondait sur eux, Hermione et lui hissèrent Goyle sur leur propre balai, puis s'élevèrent à nouveau, roulant et tangant dans les airs, pendant que Malfoy grimpait derrière Harry.
« La porte! Va vers la porte !»
cria Malfoy à l'oreille de Harry qui fonçait derrière Ron. Hermione et Goyle, à travers le tourbillon de fumée noire, parvenant à peine à respirer. Autour d'eux, les derniers objets qui n'avaient pas encore été brûlés par la voracité des flammes volaient en tous sens, jetés en l'air, en manière de célébration par les créatures nées du feu, ensorcelées. Des coupes, des boucliers, un collier étincelant et une vieille tiare aux couleurs délavées.
« Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? La porte est par là !»
hurla Malfoy. Mais Harry prit un virage en épingle à cheveux et descendit en piqué. Le diadème semblait tomber au ralenti, tournoyant et scintillant dans sa chute vers la gueule béante d'un serpent. Et soudain, il l'attrapa, le fit glisser autour de son poignet. Harry vira à nouveau alors que le serpent se ruait sur lui. Il remonta en flèche et fonça directement vers l'endroit où se trouvait la porte, en priant pour qu'elle soit restée ouverte. Ron, Hermione et Goyle avaient disparu. Malfoy hurlait, cramponné si étroitement à Harry qu'il lui faisait mal. Enfin, à travers la fumée, il distingua un rectangle qui se découpait sur le mur et bifurqua dans cette direction. Quelques instants plus tard, il sentit de l'air frais pénétrer dans ses poumons, puis Malfoy et lui s'écrasèrent contre le mur du couloir à l'extérieur de la salle. Malfoy tomba du balai et resta étendu, face contre terre, haletant, toussant, secoué de haut le cœur. Harry roula sur lui-même et se redressa en position assise. La porte de la salle sur demande s'était effacée, et Ron et Hermione étaient assis sur le sol pantelant, à côté de Goyle, toujours inconscient.
Crabbe,
balbutia Malfoy, dès qu'il put à nouveau parler.
Crabbe.
Il est mort, répondit sèchement Ron. Il y eut un silence. Pendant quelques instants, on n'entendit plus que les quintes de toux et les halètements. Puis, une série de détonations assourdissantes secouèrent le château et des silhouettes transparentes montées à cheval filèrent au galop, leurs têtes qu'elles tenaient sous le bras poussant des cris sanguinaires. Harry se releva, vacillant sur ses pieds au passage des cavaliers sans tête, et regarda de tous côtés. La bataille continuait de faire rage autour de lui. Il entendait à présent d'autres cris que ceux des fantômes qui battaient en retraite. La panique le saisit.
« Où est Ginny ? »
lança-t-il brusquement.
« Elle était ici! Elle devait revenir dans la salle sur demande !»«
Tu crois que la salle fonctionnera encore après l'incendie ?» demanda Ron. Lui aussi se remit debout. Il se massa la poitrine et regarda à droite et à gauche.
« Tu veux qu'on se sépare et qu'on aille voir ?»«
Non !» trancha Hermione qui se relevait à son tour. Malfoy et Goyle étaient restés étalés par terre, impuissants.
Ils n'avaient plus de baguette, ni l'un ni l'autre.
Restons ensemble. Allons-y. Harry, qu'est-ce que tu as sur le bras? Quoi? Ah oui!
Il ôta le diadème de son poignet et le leva devant lui. Il était encore chaud, noirci de suie. Mais, en le regardant de près, il parvint à déchiffrer les mots minuscules qui y étaient gravés. Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit. Un liquide semblable à du sang semblait suinter du diadème. Soudain, Harry sentit l'objet vibrer avec violence, puis il se brisa entre ses mains. Il crut alors entendre un très faible, très lointain cri de douleur, provenant non pas du château, mais de la chose qui venait de se disloquer sous ses doigts.
« Ce devait être un feu démon !»
gémit Hermione, les yeux fixés sur les morceaux du diadème. « Pardon ?»«
Le feu démon, le feu ensorcelé, c'est l'une des substances qui détruisent les horcruxes. Mais jamais, jamais je n'aurais osé m'en servir, c'est tellement dangereux. Comment crabe savait-il ?»«
Ce sont les carreaux qui ont dû lui apprendre, » déclara Harry d'un air sinistre. « Dommage qu'ils ne les aient pas écoutés quand ils ont expliqué comment l'arrêter, » dit Ron. Tout comme Hermione, il avait les cheveux roussis et le visage noir de suie. « S'il n'avait pas essayé de nous tuer, je regretterais vraiment sa mort. »«
Mais tu ne te rends pas compte, » murmura Hermione. « Cela signifie que si nous parvenions à amener le serpent... »
Elle s'interrompit lorsque des cris, des hurlements et les bruits caractéristiques de combats singuliers emplirent soudain le couloir. Harry jeta un coup d'œil et crut que son cœur allait cesser de battre. Des mange-morts avaient pénétré dans Poudlard. Fred et Percy venaient d'apparaître, reculant vers eux, tous deux aux prises, avec des hommes masqués et encapuchonnés. Harry, Ron et Hermione se précipitèrent à leur rescousse. Des jets de lumière jaillirent dans toutes les directions, et l'homme qui affrontait Percy se hâta de battre en retraite. Son capuchon glissa alors de sa tête, et ils virent un front bombé, des cheveux noirs parsemés d'argent.
« Bonjour, monsieur le ministre !» s'écria Percy.
Il lança un maléfice droit sur Thicknesse, qui lâcha sa baguette et crispa les mains sur sa poitrine, visiblement très mal en point.
« Vous ai-je informé de ma démission ? Ma parole, Perse, c'est de l'humour !»
s'exclama Fred, tandis que le mange-mort qu'il combattait s'effondrait sous le choc de trois sortilèges de stupéfaction simultanés. Thicknesse était tombé par terre, et de minuscules piquants jaillissaient sur toute la surface de son corps. Il semblait se transformer en une sorte d'oursin. Fred regardait Percy d'un air réjoui.
« Oh, tu as vraiment fait de l'humour, Perse! Je crois que je ne t'avais plus entendu dire quelque chose de drôle depuis que tu... »
L'atmosphère sembla alors exploser. Ils étaient tous regroupés, Harry, Ron, Hermione, Fred et Percy, les deux mange-morts à leurs pieds, l'un stupéfixé, l'autre métamorphosé. Et ce fut en cet instant précis où le danger paraissait momentanément écarté que le monde éclata en morceaux. Harry se sentit catapulté dans les airs, se protégeant la tête de ses bras, et ne put que serrer le plus étroitement possible cette mince tige de bois qui constituait sa seule et unique arme. Il entendit les cris, les hurlements de ses compagnons, sans le moindre espoir de savoir ce qui leur était arrivé. Autour de lui, tout n'était plus que douleur et pénombre. Il était à moitié enseveli sous les décombres du couloir qui avait subi une terrible attaque. Un courant d'air froid lui indiqua que le flanc du château était éventré et la sensation de tiédeur poisseuse sur sa joue signifiait qu'il saignait abondamment. Il entendit alors un cri déchirant qui lui remua les entrailles, un cri qui exprimait une souffrance que ni le feu ni aucun maléfice ne pouvait provoquer. Il se leva chancelant, plus terrifié qu'il ne l'avait été depuis le début de cette journée, plus terrifié peut-être qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. Hermione se débattait parmi les gravats pour se remettre debout. Sur le sol, trois jeunes hommes aux cheveux roux étaient serrés les uns contre les autres, à l'endroit où l'explosion avait défoncé le mur. Harry saisit la main d'Hermione, tandis qu'il titubait et trébuchait sur les pierres et les débris de bois.
« Non ! Non ! Non ! » hurla quelqu'un. « Non, Fred ! Non !»
Percy secouait son frère, Ron agenouillé à côté d'eux, mais les yeux de Fred regardaient sans voir le fantôme de son dernier rire, toujours gravé sur son visage.